Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Un texte de notre Bible dans l'Ancien Testament, livre de l'Exode, chapitre 35. Alors, Exode, chapitre 35, verset 30. Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez que l'Éternel a choisi Betsaleël, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même que Oholiab, fils d'Aïsamak de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et en fin lin, de faire toute espèce de travaux et d'inventions. Betsaleël, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Betsaleël, Oholiab, et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'ouvrage qu'ils faisaient et vinrent dire à Moïse, « Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. » Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupe plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient, et au-delà, pour tous les ouvrages à faire. » Voilà, que Dieu nous bénisse à travers sa parole. Vous l'avez déjà lu ce texte, n'est-ce pas? Il y a certainement matière à méditer et à trouver un encouragement. Nous avons été exhortés déjà par une parole que nous avons entendue il y a quelques instants, à servir et à aller certainement plus loin dans la grâce de Dieu et dans la connaissance de notre Dieu. Je commencerai par dire ceci, c'est que Dieu recrute. Voyez, Dieu recrute pour édifier son Église. Et il cherche des collaborateurs et des collaboratrices. Chaque appelé, c'est-à-dire entendez par là chaque croyant que nous sommes, a un don particulier à faire valoir. Les uns et les autres, Dieu nous a appelés pour nous sauver, mais il nous a appelés également à le servir. Et il nous a appelés à le servir dans son service et pour son service. Le Saint-Esprit qui dirige, eh bien, coordonne, comme l'Écriture le dit dans cette parole, dans le Nouveau Testament, un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Vous connaissez cette parole de l'apôtre Paul qui, eh bien, enseignant sur les dons spirituels et puis sur l'articulation, finalement, de la vie de l'Esprit au sein de l'Église de Jésus-Christ, nous dit que c'est le même Esprit qui coordonne, qui opère, qui dirige, qui inspire, et il distribue à chacun, finalement, eh bien, comme il le veut. Non pas comme nous, nous le voulons, mais comme lui, il le veut. Alors, ceci, bien entendu, c'est que tous nous avons et nous pouvons faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu. Même le plus petit, le plus modeste, celui qui a le moins de capacité parmi nous, eh bien, est appelé et est rappelé ce matin, eh bien, à se souvenir que finalement, eh bien, il n'a pas à se sous-estimer en disant, ben oui, mais moi, quand j'entends peut-être tel ou tel frère prier ou telle sœur faire ceci et cela, moi, je me sens vraiment démuni, je ne pense pas que j'y arriverai. Alors, frères et sœurs, c'est ce que nous allons dire ce matin. Nous allons voir que finalement, eh bien, l'Église, la manière dont Dieu entend et voit son Église, c'est qu'il y a un fonctionnement qui soit, eh bien, une coordination des uns et des autres. Il est à dire que certaines vocations sont plus spécialisées que d'autres. C'est ce qu'on appelle des ministères dons. Et ça, c'est encore l'apôtre Paul qui le révèle dans Éphésiens chapitre 4, où il a dit que Dieu, eh bien, a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme pasteurs, évangélistes, et puis docteurs, etc. Donc, ce sont des ministères dons. Faire attention, parce que c'est quelque chose de tout à fait particulier, c'est un appel particulier. Cependant, quoi qu'il en soit, il y a place dans l'Église de Jésus-Christ, dans le corps de Jésus-Christ, il y a place pour tous, sur tous les plans et dans toutes les disciplines. Alors, que peut-on appeler discipline ? Alors, il y a, non pas seulement voir, eh bien, la prédication, mais la discipline de la musique, la discipline de toutes les questions matérielles, de toutes ces choses qui font, qui impliquent, eh bien, le bon ordre, le bon fonctionnement, un bon état de fonctionnement dans le corps de Christ. Alors, à travers la discipline de la prière, discipline de la louange, enfin, on peut donner ce mot à tout ce qui se fait et tout ce qui se réalise dans l'Église, dans le corps de Jésus. Comme dans la fameuse parabole que vous connaissez et que je rappelle, le maître dit ceci, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Et l'ordre du maître est le suivant, « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui est raisonnable. » Voilà l'appel qui retentit dans l'Évangile, parabole que Jésus nous laisse, pour nous montrer encore une fois de plus que, eh bien, nous avons tous des capacités. Nous avons tous des compétences, pas tous dans le même domaine, mais nous avons à faire valoir tout cela. Alors, dans notre texte que nous avons lu, nous allons commencer par le choix des ouvriers. Et, je le rappelle, c'est un choix de Dieu. Et au verset 30, je relis ceci, « Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez que l'Éternel, c'est Dieu qui a choisi, c'est pas Moïse, « Sachez que l'Éternel a choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Judas. » Il peut y avoir aspiration légitime, sincère, profonde. La sélection revient à Dieu. C'est ce que nous trouvons dans ce texte, comme bien d'autres textes, qui restent souverains dans le recrutement. Alors, mes frères et mes sœurs qui cherchaient du travail, c'est quand même le parcours du combattant, hein. Et aujourd'hui, on a institué véritablement des services de recrutement, avec une formation, toutes sortes de choses, et quelquefois on se dit pour un malheureux travail où l'on demande, je suis tout à fait d'accord, où on demande diplôme sur diplôme et formation, etc. Tout à fait d'accord. Mais quelquefois, dans certaines choses qui sont si modestes et qui peuvent être faites véritablement avec beaucoup d'habileté, beaucoup de gens sont écartés au profit peut-être de gens qui n'ont peut-être pas les qualifications. Enfin, c'est le monde, c'est la situation dont nous connaissons. Mais en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, eh bien, permettez-moi de vous dire que c'est Dieu qui est souverain dans le recrutement et c'est lui qui prend celui-ci, celle-là, d'une manière ou d'une autre, parce que c'est lui qui sait. Le nom de Betsaléel signifie « à l'ombre de Dieu ». Et c'est intéressant que Dieu ait choisi en premier lieu cet homme pour la construction et l'édification du sanctuaire, parce que ça va être un personnage important, Betsaléel. Et son nom veut dire « à l'ombre de Dieu ». Et c'est formidable de s'appeler Betsaléel, d'avoir une distinction et un choix qui vient de Dieu pour faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu, et de porter le nom « être à l'ombre de l'Éternel ». Imaginez-vous ce que ça veut dire. Et c'est bien que nous ne nous prenions pas pour la lumière, pour éclairer le Seigneur. Si l'on peut peut-être considérer les choses de cette manière, si tenter de croire que quelquefois, eh bien, nous pouvons être justement, eh bien, peut-être au-dessus du Seigneur, et si le disciple est appelé à être la lumière du monde, et vous le savez parce que Jésus nous a distingués en nous donnant ce qualificatif et cette mission d'être la lumière du monde, c'est toujours et avant tout par réflexion que nous sommes finalement la lumière, parce que Jésus, c'est lui qui est la lumière, Dieu est la lumière, et nous ne sommes que la réfraction, on peut dire peut-être de cette manière, c'est-à-dire que le disciple à ce moment-là réfléchit ce qu'il reçoit de la source lumineuse et inspiratrice, et ne nous prenons pas pour le contraire. Par exemple, prenons l'exemple de Jésus, parce que je crois qu'il n'y a pas de meilleur exemple d'obéissance, meilleur exemple de réfraction ou de réflexion de la lumière de Dieu, parce que dans l'évangile de Jean, Jésus s'exprime de cette manière, il s'exprime pour nous. Il dit « Le Fils », en entendant, en parlant de lui, « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. » Alors je crois que là nous avons une base et un fondement, un principe immuable, extraordinaire pour nous conforter dans la place qui doit être la nôtre, c'est que je suis là dans la fonction que Dieu m'a impartie, dans les qualifications ou les qualités que Dieu m'a imparties, mais je le suis que dans la mesure où je m'inspire de Dieu. Et il n'y a pas dans les métiers d'art, parce que nous allons en parler, ou dans des métiers spécifiques, ou des métiers de haute technologie de précision, comme dans l'œuvre de Dieu, des fantaisies. Comprenez ? Dans la recherche médicale, ou dans, je ne sais pas moi, quelle précision de certaines technologies d'aujourd'hui modernes, celui qui est préposé à faire telle et telle chose, il ne va pas faire des fantaisies. Il doit suivre un plan, je suppose. Il doit, exercer dans le cadre qu'on lui a bien défini, sans s'écarter de droite et de gauche, parce qu'autrement, imaginez-vous ce que ça peut faire. Surtout si vous construisez une bombe atomique. Hein ? Donc, c'est un petit clin d'œil que je fais, mais pour montrer que c'est quelque chose de bien spécifique. Alors, il y a d'abord un premier positionnement déterminant dans le service. C'est le rapport étroit qu'il y a entre le maître d'œuvre. Nous l'appellerons architecte en ce qui concerne la construction du tabernacle ou de l'église et son contremaître. Il y a le maître et le contremaître. Et vous savez à quoi ça sert, les contremaîtres, hein ? Ils sont gentils, c'est ordinaire. C'est toujours une situation de sandwich. C'est très, très difficile. Donc, les plans, l'initiative, l'investissement, le goût et l'excellence reviennent au chef, c'est-à-dire au maître. Et faut-il qu'à ce moment-là, s'il veut véritablement voir l'ouvrage accomplir, il faut qu'il trouve un exécuteur, je dis bien, de deux qualificatifs, fidèle et docile, qui sache tout simplement lire et interpréter justement sa volonté pour la réaliser. Ça fait partie des qualifications, ça fait partie des compétences, ça fait partie du choix du maître, et il est bien certain que moi, si vous me donnez de construire une maison, vous me donnez un plan, alors là, je peux vous dire que ça va être catastrophique. Ne l'achetez pas. De toute façon, il n'ira pas très loin. Mais les frères qui travaillent dans le bâtiment, vous savez que quand il y a là quelque chose à mettre en place, vous avez une fonction qui vous est impartie, on vous donne un plan, et puis vous allez construire sur ce plan. Vous n'allez pas dire, j'aimerais bien que la fenêtre soit un petit peu comme ça, ça me plairait. Surtout que c'est pas pour vous que vous construisez en plus. Donc, il y a quelque chose de très rigoureux dans cela. Vous comprenez ce que ça veut dire. Dieu sait en choisissant qui obéira. Parce que le souci du Seigneur, si je peux m'exprimer ainsi, parce que je crois que Dieu n'a pas de souci, mais l'attente de Dieu plutôt, c'est véritablement de savoir, non pas que l'ouvrier soit bien gentil, qu'il dise toujours oui et puis qu'après il dise non, il fasse comme si c'était non, mais ce que Dieu attend, c'est que par-delà les compétences et la position, la fonction, le titre même que nous avons, le choix qui a été fait de notre personne pour accomplir telle ou telle fonction, c'est l'obéissance. C'est pas autre chose. Un patron qui vous paie, tous les mois vous recevez un salaire, qu'est-ce qu'il attend de vous ? Non pas que vous arriviez à l'heure, ce qui est tout à fait logique, que vous soyez ponctuel, que vous soyez méthodique, tout ça naturellement, mais il attend que vous accomplissiez ce qu'il vous demande. Et si vous, par malheur, vous n'accomplissez pas ce qu'il vous demande, il va vous remettre certainement en place. Il va vous dire à un moment donné, je vous l'ai dit une fois, je vous l'ai dit deux fois, à la fin du mois, vous recevrez une petite lettre d'avertissement. Et puis ça peut durer comme ça une, deux, trois fois, et puis au bout d'un certain temps, il dira, moi je me sépare de vous parce que vous ne faites pas ce que j'attends de vous. On est d'accord là-dessus. Ça, c'est les usages de la vie. Et on se plie à ce genre de choses. Et en ce qui concerne le Seigneur, dans son œuvre, à quelque niveau que ce soit, eh bien, Dieu attend que nous lui obéissions. C'est tout, s'il n'y a pas autre chose. Alors, comme un seul homme ne peut suffire à la construction, à l'édification du sanctuaire, Dieu adjoint à Betsaléel Oholiab. Alors, c'est intéressant également de voir le personnage qui va accompagner, eh bien là, ce chef, en quelque sorte. Il va y avoir Oholiab, et Oholiab veut dire tente du Père, ou maison du Père. C'est l'évocation là où l'on revient, là où sont les racines, là où on trouve la sécurité et tout simplement la confiance. Quand je retourne dans la maison de mon Père, vous voyez ce que je veux dire, je retourne à mes racines. C'est là où j'ai passé mon enfance. C'est là où j'y ai trouvé, eh bien, la sécurité et la confiance. Et Oholiab porte le nom de tente, maison du Père. Ce même Oholiab est fils d'Ahisamac. C'est dans le texte, hein, je ne sors pas du contexte. Qui signifie frère qui soutient. Alors là, on tombe tout à fait dans le sens. Pour quelqu'un qui va aider Betsaléel, Dieu a choisi un homme qui s'appelle le frère qui soutient. Et je peux dire que Dieu ne se trompe jamais dans ses choix. Quand ce sont les hommes qui choisissent, quand ce sont les jeunes qui bricolent, quand ce sont les hommes qui, sous des émotions, du sentimentalisme, ou des arrangements, de bas arrangements, alors je peux vous dire que là, il y a des problèmes à se faire pour l'avenir. Mais quand c'est Dieu qui choisit, frères et sœurs, quand il place un homme, quand il place une équipe d'hommes pour faire quelque chose, et que ça a été bien choisi dans le temps, au moment précis, en fonction de certains paramètres dont nous ne rentrerons pas en considération ce matin parce que nous n'avons pas le temps, mais une chose qui est certaine, c'est quand c'est Dieu qui choisit, je peux vous dire que Dieu a des choix qui sont justes, dont les noms déterminent les personnages. Nous, nos noms usuels n'ont pas tellement d'importance, hein. Que vous appeliez Henri, ou Maurice, ou Jacques, ou Pierre, hein. Encore si c'est des noms bibliques, ça va. Mais moi, Alain, ça ne veut pas dire grand-chose, hein. Alors, mais dans les noms bibliques, en tous les cas, les noms hébreux, il y a toujours un correspondant avec le personnage qui, véritablement, eh bien, détermine, et peut-être quelquefois, on trouve le caractère dans certains prénoms aussi de certaines personnes, même encore aujourd'hui. Donc, le choix de Dieu, c'est que Dieu a choisi des gens solides sur lesquels on peut compter. Sur lesquels on peut compter. Et ça, c'est important de compter sur les gens. Et je crois que Dieu nous fait confiance. Eh oui, il prend des risques avec nous. Hein. Vous êtes pas, hein, certainement, vous êtes d'accord. Il prend des risques parce que il nous a choisis, nous ne sommes rien. Il nous a choisis, nous sommes des pécheurs, certes rachetés et pardonnés, mais il édifie quand même son œuvre. Il va chercher quelquefois des gens qui reviennent de si loin. Et il dit, bah, maintenant tu vas faire mon œuvre. Eh ben, je dis, Seigneur, il faut qu'il ait une grande confiance. Hein. C'est vrai. Gens solides sur lesquels il peut compter parce que ce sont des gens qui vont lui obéir. C'est pas de discuter, c'est pas de négocier, il n'y a rien à négocier avec le Seigneur, c'est simplement, eh bien là, d'obéir. Il y a, après ces deux personnages déterminants dans la construction du tabernacle, il va y avoir ce que nous pouvons appeler les volontaires. Deux choisis, dont nous avons cité les noms, dont nous avons vu le caractère, les particularités qui font que Dieu, eh bien, les a mis de côté. Mais après, il y a tous les volontaires dans le peuple d'Israël. Puisqu'il s'agit de construire le sanctuaire du tabernacle, nombre d'Israélites s'engagent spontanément dans cette tâche. Eh oui, parce que on le comprend, et je sais que votre cœur y est, c'est que quand il s'agit de faire quelque chose pour Dieu, on répond présent. Ouais. Ce matin, vous avez répondu au rendez-vous pour vous édifier. Et non seulement pour vous édifier, mais si vous pouvez apporter quelque chose de bien à votre frère et à votre sœur qui partagent, eh bien là, cet instant, eh bien c'est quelque chose, parce que je ne viens pas seulement pour recevoir, mais je viens aussi pour donner. Je donne ma louange, je donne mon adoration, je donne par ma présence, eh bien tout simplement, eh bien là, ce qui fait ce culte en particulier, pour le Seigneur d'abord, mais aussi pour mes frères et mes sœurs. Donc, il va y avoir à ce moment-là, à partir du moment où Moïse dit « nous allons édifier le tabernacle », des gens dans tout Israël, dans toutes les tribus, qui vont se dire, mais nous voulons participer. Et ça, c'est formidable. Dans une société comme la nôtre aujourd'hui, il y a tant de désengagement, où les gens ne veulent plus prendre de responsabilité. On se dit, bien, oh là là, je vais laisser à d'autres. Mais non. Il y a les charpentes, il y a les tissages, il y a les broderies, il y a les tentures, il y a les travaux sur bois et sur les métaux, il y a l'orfèvrerie, autant de métiers que les Israélites avaient appris en Égypte, parce que l'Égypte était un pays d'œuvres et même de chefs-d'œuvre. On en a encore les vestiges aujourd'hui, ils commencent à être un petit peu érodés. Mais toujours est-il que là, ils avaient appris pendant 430 ans. C'était des gens habiles, les Hébreux, hein, attention. Mais ils avaient appris, eh bien là, à travailler toutes sortes de choses. L'exécution des travaux devait s'effectuer dans une totale obéissance, nous l'avons dit tout à l'heure, aux ordres de Moïse et de ses lieutenants. C'est-à-dire qu'il y avait Moïse d'abord, qui recevait, lui, l'inspiration, et puis après, il y avait ces gens qui avaient aussi l'inspiration, nous allons le voir, et qui devaient répartir le travail. Il est souligné que parmi ces volontaires, il y avait des hommes et il y avait des femmes. C'est un peu plus loin, nous lirons le texte tout à l'heure. Des hommes et des femmes. Je dis que l'œuvre de Dieu n'est pas seulement une affaire d'hommes. Il y a certains cadres qui est spécifique aux hommes et qu'il faut respecter. Mais qu'est-ce que serait le corps de Christ sans nos sœurs ? C'est vrai ? Elles ont leur rôle, elles ont leur place. Et vous savez que Jésus a été le plus grand révolutionnaire parce qu'il a donné, dans le contexte de l'Antiquité de son temps, une place aux femmes qu'elles n'avaient pas avant qu'il vienne. Et l'Évangile, c'est un véritable message de libération pour les femmes. Parce que ça n'existait pas avant. Et ça a été véritablement, là, quelque chose de considérable. Donc, nous voyons qu'il y a là, dans l'implication de ce travail, des hommes et des femmes qui se rendent disponibles. Au chapitre 35 et au verset 22, c'est ce qu'il nous est dit à un moment donné. Je reprends le texte parce que nous ne l'avons pas lu tout à l'heure. « Les hommes vinrent aussi bien que les femmes, tous ceux dont le cœur était bien disposé, ils apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, enfin, toutes sortes d'objets d'or et toutes sortes de choses semblables. » Chacun a sa tâche, chacun selon ses capacités. Maintenant, nous allons examiner les qualifications requises. Qualification. La qualification pour servir le Seigneur, cette expression la résume. Il nous est dit dans ce texte qu'ils ont été rendus capables de faire, de travailler, rendus capables de graver, rendu capable d'exécuter. Et au verset 31, nous l'avons lu ensemble, 31 et 34, il nous est dit que Dieu les a remplis de l'esprit, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, et puis vous relirez toute la suite du texte si vous voulez, parce que c'est ce que nous avons déjà commencé à lire tout à l'heure. C'est-à-dire beaucoup de savoir, et écoutez, beaucoup de savoir-faire. Parce que ce n'est pas le tout de savoir, mais il faut savoir le faire. Il y a des gens qui savent, mais qui ne savent pas le faire. Et Dieu ne nous a pas appelés à être des hommes et des femmes avec des cerveaux à trois étages en oubliant qu'ils ont des mains et des pieds. Mais Dieu a voulu que dans notre entité humaine, nous ayons à la fois une tête pour réfléchir et puis des mains pour l'accomplir. C'est pas vrai, ça? C'est comme beaucoup de choses. La théorie, c'est bien, mais il faut que ce soit aussi la pratique, parce qu'une église où il n'y a que de la théorie, et puis qu'il n'y a pas de pratique, je peux vous dire qu'elle va s'embourber. Et puis une église où il y a peut-être que beaucoup de pratique, mais qu'il n'y a pas forcément quelquefois une réflexion dans la pensée du Seigneur, je peux vous dire que dans les deux sens, ça ne donne pas toujours des bons résultats. Donc, on est bien d'accord sur ce qui est défini dans le savoir-faire, avait été acquis durant ce long séjour en Égypte par les Hébreux. Mais nous disons et nous considérons que cependant les plus belles habiletés d'hier chez les Hébreux, les plus belles habiletés pour nous aujourd'hui, là, ont besoin d'être d'abord, premièrement, offertes à Dieu. Il y a des gens qui sont capables parmi nous. Mais si cette capacité n'est pas confiée dans le Seigneur, ça n'aboutira pas, frères et sœurs. Ça sera charnel, mais ça ne sera pas spirituel. Premièrement, il faut qu'elle soit, même les plus belles, offertes à Dieu. Le deuxième point qui nous est révélé dans ce texte, en enseignement, c'est qu'elles doivent être reprises en sous-main par l'artiste par excellence. Je ne me prends pas pour un artiste. Le véritable artiste, c'est le Seigneur. C'est lui, le Créateur, qui, lui, va qualifier déjà quelqu'un de qualifié. C'est-à-dire que Dieu nous donne à la base certaines dispositions et certaines aptitudes, mais c'est lui qui va développer ces aptitudes. Et je le dis au passage, mes frères et mes sœurs qui avaient des dons spirituels et qui ne le savaient pas, ou qui le savaient mais qui ne les utilisaient pas, vous manquez de foi. Moi, je le dis ce matin, vous manquez de foi parce que Dieu voudrait que vous alliez plus loin. Et vous dites, ah ben non, je suis trop timide. Et puis, qu'est-ce qu'on va penser, tout ça? Eh oui, l'Église a besoin d'exploser. L'Église, enfin dans le bon sens, elle a besoin d'aller de l'avant. Et le Seigneur nous dit, quelquefois nous disons au Seigneur, mais Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais Seigneur nous dit, mais regarde, je te l'ai déjà donné, mais tu ne l'utilises pas. Qu'est-ce que vous voulez? C'est vrai pour vous, mais c'est vrai aussi pour moi. Il y a des choses où je veux vraiment aller de l'avant. Et Seigneur me dit, bah écoute, vas-y, hein, c'est par la foi que tu vas le prendre. Hein. Je t'ai donné ce qu'il fallait, maintenant il faut que tu avances. C'est tout. Donc, ça doit être repris en sous-main, parce que c'est Dieu qui va qualifier encore davantage, pour rendre non ce qui est bon, mais pour rendre le meilleur. Parce que ce que nous avons à apprendre, c'est que Dieu n'attend pas seulement ce qui est bon et bien, mais il attend ce qui est le meilleur pour lui. Pour lui, on est bien d'accord, uniquement pour lui. C'est dans sa relation que commence la véritable école de perfectionnement. Dans la vie des hommes, nous avons successivement différentes écoles. Il y a l'école maternelle, je ne sais pas si vous en souvenez. Il y a l'école primaire, il y a le secondaire, il y a ensuite, après là, eh bien, les écoles, les hautes écoles, nous pourrions dire, après le bac, où là, il y a encore une autre dimension de perfectionnement qui donnera peut-être dans les plus hautes sphères les cadres de la nation pour diriger, pour je ne sais quoi faire. Mais toujours est-il que avec Dieu, c'est exactement dans la même trajectoire. Il y a toujours des écoles de perfectionnement. C'est pas de dire, eh bien maintenant j'ai reçu ceci, c'est très bien, c'est formidable, je peux dormir sur mes lauriers. Non, Dieu veut nous perfectionner. Il veut que nous allions plus loin, pour sa gloire. Vouloir faire par soi-même, en croyant que l'on sait faire, c'est une illusion. Et au final, nous ne recevrons pas l'assentiment du Seigneur. Quelquefois, on a entendu de jeunes apprentis, en tout sens, hein, dire, voilà, tu vas faire ceci, mais je vais te montrer comment il faut faire. Ah non, non, je sais. Oh là là. Alors, avant de savoir, faut apprendre. Il faut apprendre. On ne peut pas dire que l'on sait quand on n'a pas appris. Moi, je me souviens, et ça m'a marqué, j'avais une vingtaine d'années, je n'avais jamais touché au bois, à la menuiserie et tout ça, mais je voulais faire un petit travail, et mon père, qui n'était pas menuisier, mais quand même qui savait certaines choses. Et puis, il a voulu me faire faire quelque chose. Et puis, j'ai dit, ah ben non, non, je sais, papa. Je savais tout, naturellement. Et à ce moment-là, il y a une parole qui est venue dans mon cœur, vraiment une parole. Et ça, je me souviendrai toute ma vie, ça fait 30 et quelques années, ça. Le Seigneur, je venais juste de me convertir. Le Seigneur m'a dit, il m'a empoigné, il m'a dit, si tu n'écoutes pas ton père, il n'était pas converti. Hein. Mais au moins, pour ce qu'il avait à me dire, il avait des choses à me dire sages et intelligentes. Et le Seigneur m'a dit au mon cœur, si tu n'écoutes pas ton père, tu ne m'écouteras jamais. Alors là, j'ai compris. J'ai compris que si j'avais besoin, finalement, d'écouter le Seigneur que je venais de découvrir, il fallait d'abord que j'écoute mon propre père. Et ça fait partie de l'école. Et ça, je m'en souviendrai. Ça m'a marqué, je peux vous le dire. Alors, on ne sait pas faire avant d'avoir appris. C'est quelque chose de tout à fait normal. C'est peut-être cela l'offrande de Caïn. Lorsque il nous est dit dans la parole de Dieu, l'Éternel ne porta pas un regard favorable sur son offrande. Parce que dans le fond du cœur de Caïn, qui voulait offrir une offrande à Dieu, bah bien sûr, comme son frère. Mais une chose qui est certaine, c'était les dispositions de son cœur qui n'étaient pas les mêmes que chez Abel. Et c'est pour ça qu'il nous est dit que Dieu n'a pas porté un regard favorable. Lui, il l'avait fait d'une manière charnelle. Paul prend le contre-pied de cette fierté humaine quand il déclare, malgré ses titres origine et capacité dans le livre de Philippiens au chapitre 3, parce qu'il est intéressant quand même d'aller recourir à ce que nous dit la parole de Dieu dans certains exemples qu'elle nous donne, chapitre 3 et au verset 8, quand il est dit ceci, écoutez bien, c'est Paul qui parle, « Et même que je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient de la loi, non celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. » Frères et sœurs, un grand homme comme Paul pouvait dire, malgré les qualifications, malgré les capacités qui étaient les siennes, eh bien que quelque part, eh bien, il avait besoin, finalement, de considérer que tout ce qui était humain chez lui n'avait peu de valeur ou n'avait plus de valeur. La seule valeur, c'était de confier toutes ces choses entre les mains de Dieu, pour que Dieu le qualifie à sa manière. Ça, c'est important. Gardons en mémoire cette parole qui est marquée en lettres de feu dans notre Bible, où Jésus nous dit dans Jean chapitre 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Merci Seigneur de ce que tu nous as appris ça, parce que ça nous garde dans l'humilité, dans la modestie. Ça me garde dans l'humilité, dans la modestie, quand je sais faire des choses que j'ai apprises et que Dieu me dit, « Mais non, tu sais, tu les as peut-être apprises, mais tu les as fait peut-être dans ce temps-là, mais aujourd'hui ça sera différent. » Et tu vas être obligé encore de passer par moi et de rester humble pour pouvoir les accomplir. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'œuvre de Dieu se fait selon des principes bien définis. On ne fait pas l'œuvre de Dieu n'importe comment et d'une manière désordonnée. Vous avez remarqué dans l'Ancien Testament comment les choses sont faites. Elles sont données avec une infinité de détails. C'est que Dieu les veut comme ça, pas un petit peu à notre fantaisie. Les principes que Dieu nous donne pour son service sont des principes spirituels et nous devons rester dans ce domaine. Le Seigneur attache autant d'importance à l'ouvrage à faire, l'ouvrage qui est fait, l'ouvrage qui sera fait qu'à l'ouvrier. Parce que ça, c'est une composante, hein. C'est quelque chose de, c'est un ensemble entre l'ouvrage et l'ouvrier, l'ouvrier et l'ouvrage. L'ouvrage se réalise à la mesure que l'ouvrier se laisse guérir, se laisse conduire, se laisse instruire et qu'il obéit. Encore une fois de plus, écoutez cette parole de l'apôtre Paul quand il nous dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 3 et au verset 4 à 6. Écoutez bien cette parole quand il dit ceci. Cette assurance-là, assurance de travailler convenablement, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Et il ajoute, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue et l'esprit vivifie. Je ne le dirai jamais assez, frères et sœurs, à quelque niveau que ce soit dans la musique, que ce soit dans le chant choral ou autre chose, que ce soit dans le ménage, que ce soit dans ceux qui vont faire les travaux d'électricité, de plomberie ou tout ce que vous voudrez, que ce soit la prédication en passant par l'exhortation, la prière, la consolation. Je dirais que ce que nous avons besoin de comprendre, si nous voulons véritablement honorer le Seigneur, c'est que les choses doivent être faites non pas d'une manière charnelle, mais d'une manière spirituelle, autrement c'est pas la peine de les faire. Ça ne sert à rien. On est bien d'accord. C'est ça le principe de l'œuvre de Dieu. Maintenant, quand je dis spirituel, il ne faut pas tétaniser en disant « Ah, je ne suis pas assez spirituel, alors je ne vais rien faire, parce que j'ai peur de ne pas être suffisamment spirituel. » Alors à ce moment-là, vous n'êtes pas prêt de faire quelque chose. Là, c'est encore une mesure de foi. On est bien d'accord. Une mesure de foi. Parce qu'autrement, on n'est pas sorti, hein. Nous avons besoin de passer de la transition de la loi, de la lettre, à l'esprit, frères et sœurs. Dans le temps, eh bien, peut-être que nous étions là à vouloir peut-être servir le Seigneur si nous étions religieux, avec des œuvres charnelles. Et les œuvres charnelles, comment elles sont appelées dans la Bible? Des œuvres mortes. On est bien d'accord, c'est ce que dit l'Écriture. Des œuvres mortes. Maintenant, Dieu nous dit, maintenant vous êtes nés de nouveau, vous êtes convertis. Eh bien, ce que vous devez faire, c'est que vous devez marcher dans l'esprit, selon les principes de l'esprit. Et là, quand on marche dans les principes de l'esprit, ça illumine tout. Tout rayonne. C'est autre chose. Ça a une autre envergure. Or, les hommes en question dans notre texte ont été probablement d'abord, je le répète, premièrement, remplis de l'esprit de Dieu, même pour les tâches matérielles, même pour mettre un clou dans un mur. Soyez spirituel. Et quand même, regardez à vos doigts. Hein. N'allez pas vous taper quand même sur les... Non, soyez spirituel. Deuxièmement, ils étaient remplis de sagesse et d'intelligence, de connaissance et de savoir-faire universel, parce que faire des bijoux, faire des tentures et monter une charpente, c'est quand même plusieurs corps de métier. Hein. Et pourtant, c'est Dieu qui leur a donné cela. Vous avez vu qu'il y a des frères quelquefois, on les entend peut-être pas beaucoup dans d'autres domaines, mais quand on leur donne une tâche à faire, ils sont excellents. Ils font tout. Formidable. Et dans une église, nous avons besoin de prédicateurs, mais nous avons besoin aussi, eh bien, de chanteurs. Nous avons besoin de gens qui connaissent la musique pour diriger les autres, mais nous avons aussi besoin de chauffagistes. Nous avons besoin d'électriciens. Nous avons besoin. Vous allez me dire, mais non, on n'est plus spirituel là. Attendez. Autrement, s'il n'y a pas ça, c'est tout un ensemble de choses. Et puis en troisième point, les hommes de notre texte étaient qualifiés pour la création artistique. Ensuite, ils étaient rendus capables d'enseigner les autres, mais pas enseigner la parole. Ils étaient capables d'enseigner leur art. Ils étaient capables d'enseigner leur qualification aux autres, de transmettre un don autrement que de dire simplement « Regardez et faites comme moi ». Parce que là, c'est pareil. C'est bien de dire aux gens « Regardez et faites comme moi ». Ah oui, mais ça ne suffit pas, ça. Parce que pour transmettre des qualifications, il faut prendre le temps. Et rien dans l'œuvre de Dieu ne doit se faire à la va-vite. Les gens qui vont à la va-vite, je peux vous dire que le travail est bâclé. Ça n'arrivera jamais et ça n'aboutira jamais. On le voit, c'est ce qui fait des désastres dans nos églises, très souvent. Mais une chose qui est certaine, c'est que pour transmettre ce que Dieu nous a donné, le communiquer à nos jeunes, le communiquer peut-être à ceux qui sont là et qui vont monter, qui prendront notre place. Mais ça va prendre du temps. Combien de prédicateurs aujourd'hui sont en place et peuvent dire, et moi y compris, d'avoir attendu 16 ans au pied d'un maître et de l'écouter, de rien dire, de rien faire, puis d'attendre que ça se passe jusqu'au moment où Dieu dit « Alors maintenant, lève-toi, c'est à ton tour. » Mais nous sommes dans un siècle où tout va vite. Mais tout va vite aussi, hein. Le début va vite, mais la fin aussi va vite. Et c'est quelque chose. Alors donc, nous voyons que le résultat, quand on fait comme, quand on copie, ou quand on essaie d'imiter quelqu'un, surtout, hein, moi je vous l'ai déjà dit depuis que je suis à Saint-Nazaire, ne cherchez pas à m'imiter et à faire comme je fais. Parce que moi, c'est moi, et vous, c'est vous. Et ça, c'est une grave erreur de vouloir imiter quelqu'un parce qu'on le prêche, parce qu'il fait ceci, parce qu'il fait cela. Non, vous êtes vous-même et vous devez rester vous-même. Et ça, c'est important. Il y a eu trop de poulains, c'est comme ça qu'on dit, trop de petits qui ressemblaient trop à leur maître. S'il y a un maître auquel nous devons ressembler, c'est à Jésus. Ça, c'est important. Mais pas à quelqu'un d'autre. Parce que l'homme est l'homme. Et l'homme, même le meilleur, eh bien, il a ses travers, il a toutes sortes de choses. Et moi, je le dis sans embâge. Je ne cherche pas à être imité. Je suis ce que je fais, je donne ce que je peux donner, de ce que Dieu m'a donné. Mais soyez vous-même. Et d'ailleurs, on est heureux quand on est soi-même. Quand on copie sur les autres, on est profondément malheureux parce qu'on n'est jamais à notre place. On n'est pas bien dans notre veste ou dans notre chemise. C'est normal parce que c'est pas vous. Dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 2, il nous est parlé justement encore. Qu'est-ce que Paul est un homme extraordinaire quand il nous enseigne et des choses qu'il a appris lui-même avec le Seigneur. Alors dans 2 Timothée, au chapitre 2 que je retrouve, il est dit « Toi donc, mon enfant, beaucoup d'affection pour Timothée, hein. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Oui, c'est ça ce que nous avons besoin, la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce n'est pas dans la grâce qui est en Alain ou dans qui vous voudrez. « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. » Non seulement des hommes, mais des fidèles. Il faut qu'ils soient fidèles. « Qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Puis après, tout de suite après, il est dit « Souffre avec moi. » Ça fait partie de l'école, la souffrance. Parce qu'il n'y a pas de bonne formation sans souffrance, excusez-moi, mais ça c'est sûr. Hein. Si vous avez fait de l'algèbre, des mathématiques et autre chose, moi, de toutes les choses que j'aime, terrible, ben, ça nous a fait souffrir. Hein. Ouais. Et j'ai rien gardé, j'ai rien gardé du souvenir de tout cela. Le plus important n'est pas de savoir si nous avons de grandes qualités ou de grandes capacités de dire « Ah oui, qu'est-ce que je suis bien, finalement ?» naturel, mais si plutôt nous avons l'Esprit de Dieu, frères et sœurs. On a tous quelque chose, mais n'allons pas nous glorifier de ce que nous avons. C'est encore Paul qui le dit, mais pourquoi te glorifies-tu de ce que tu as comme si tu ne l'avais pas? Ben oui, c'est peut-être le mal, l'origine du mal. Ce qui est de l'Esprit n'est jamais dépourvu, frères et sœurs, nous le voyons, d'intelligence, d'adresse en toutes choses. Parce que Dieu nous éclaire. Dieu nous donne une capacité que nous n'aurions pas nous-mêmes. C'est pour ça que nous avons besoin d'être spirituels. Et quand à partir du moment un homme, une femme est spirituel, mais le reste viendra. Si vous tenez dans la prière, si vous tenez dans la présence du Seigneur, mais Dieu vous donnera des choses que vous n'avez jamais pensées, des choses que vous n'avez peut-être jamais imaginé faire et réaliser, parce que c'est Dieu qui va vous conduire. Nous allons aborder brièvement maintenant après les ouvriers et leurs qualifications, on en a parlé. Maintenant, l'accomplissement de l'œuvre. Dieu a choisi des lieutenants, contremaîtres. Dieu a choisi où des volontaires se sont levés. On a donné quelques caractéristiques du service de Dieu. Maintenant, nous allons voir l'accomplissement de l'ouvrage. Nous relevons cette phrase dans notre texte, « ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer ». C'est le passage que nous avons lu. Chapitre 36, verset 2, il est dit ceci, « Moïse appela Bezaël haut au Liab et tous les hommes habiles dans l'esprit duquel l'Éternel avait mis de l'intelligence et dont le cœur était disposé. » Voilà. C'est une résonance avec le Nouveau Testament quand nous entendons la parole de Dieu nous dire ceci, « Faites tout pour la gloire de Dieu. » On est d'accord. Faites tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que vous le faites dans le but que Dieu soit glorifié. Si il y a une once de choses qui se fait pour vous, alors à ce moment-là, c'est pas la peine de le faire. C'est une œuvre morte, c'est une œuvre vaine. C'est dans la disposition d'esprit qu'il nous s'agit d'entendre bien les choses. Voici un petit détail qui ne doit pas nous échapper sur la qualité et l'utilité de ce que nous faisons pour Dieu. Je prends un exemple. Je prends l'exemple des femmes dans notre texte. L'exemple des femmes qui s'appliquaient à tisser le poil de chèvre. Vous faites ça tous les jours, mesdames. Ça vous fait sourire ? Bah, c'est quand même un matériau noble, hein, le poil de chèvre, non ? Ah oui, et je crois que ça doit avoir une certaine valeur. Hein. Ça vous fait sourire, mais... Au verset 35 et verset 25 et 26, je vais relire ce passage, parce qu'il est intéressant, parce que c'est des petits détails dans la parole qui méritent que nous nous arrêtions pour nous enseigner. Il est dit, « Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains, elles apportèrent leur ouvrage, des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi, en fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé, ça fait deux fois que c'est dit, hein, et qui avaient de l'habileté, deux fois aussi que c'est dit, filèrent du poil de chèvre. » Qu'est-ce que c'est que tisser ? Alors aujourd'hui, il y a des métiers à tisser, mais dans le temps, ça devait être certainement à la quenouille, et puis imaginez-vous un peu le travail. Hein. Voilà, ça passait les soirées, il n'y avait pas la télévision. Mais toujours est-il que tisser, écoutez bien, tisser, c'est mettre ensemble. Et je me trompe, hein ? Non ? C'est mettre ensemble, c'est assembler en tous les cas. Des fils de toutes sortes qu'une fois réunis, ces fibres forment un tissu par surcroît ou un fil beau, mais en tous les cas résistant. Ce que l'on veut, c'est pas renforcer. Un fil, c'est rien, il casse. Mais si vous en mettez 8, 10, vous allez avoir finalement, eh bien là, un matériau solide. Un matériau solide. Donc, c'est ça à tisser. Alors, on leur fournit aux femmes la matière première. C'est pas elles qui vont aller tondre les chèvres et tout ça. Non, c'est arrivé. Elles ont là la matière première et elles ne donneront pas non plus la forme définitive à l'ouvrage. Elles sont là uniquement pour tisser. C'est tout ce qu'on leur demande. On est d'accord là-dessus. Elles interviennent, et c'est là où ce que je veux arriver, elles interviennent en intermédiaire dans toute la chaîne de travail. Ce sont des tisseuses, on peut dire ça comme ça ? Oui ? Ce sont des tisseuses, tout simplement. Elles interviennent seulement en intermédiaire. Or, tout travail intermédiaire, et je le dis pour vous encourager, a sa raison d'être. Et quelquefois, eh bien, nous disons, mais qu'est-ce que je fais dans l'Église ? Qu'est-ce que je fais dans l'Église ? Quel est mon rôle ? Je fais si peu de choses. Eh bien, moi, je voudrais vous dire, mes frères et mes sœurs qui faites, à votre avis, si peu de choses, vous contribuez par votre consécration et par votre engagement de cœur pour le Seigneur à faire de grandes choses. Parce que avant vous et après vous, et surtout après vous, en aval, c'est-à-dire le résultat qui sera donné, c'est parce que vous avez fait ce que vous avez fait, parce que peut-être que nous n'aurions pas fait. Et nous n'aurions pas été capables de le faire. C'est ça dans l'œuvre de Dieu, l'intermédiaire. Je dis que dans l'Église du Seigneur, il y a des sous-traitants indispensables. Et ce n'est pas parce que nous sommes sous-traitants que nous sommes sous-estimés et sous-estimables et que le Seigneur, eh bien, nous tient autant en honneur que celui qui prêche, que celui qui est ancien, que celui qui fait chanter ou celui autre chose. Moi, en tous les cas, j'ai du respect pour tout le monde, je voudrais le dire. même ceux qui font un travail où ça ne se voit pas et qui se disent « Ah, je vois peut-être pas tout dans l'Église, j'essaie de voir beaucoup de choses. » Mais quand nous pouvons encourager les gens et leur dire « Eh bien, ce que vous faites, même dans les choses modestes, c'est important que vous le sachiez, parce que vous en avez besoin pour continuer. » C'est vrai. Et quelquefois, je vous demande pardon si je ne vois pas tout. Excusez-moi. Je ne vois pas tout, mais... Et encouragez-vous les uns les autres au lieu de, quelquefois, de dire « Ah bah oui, mais t'en fais pas assez, ceci et cela. » Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis assez nerveux. Non, on doit s'encourager les uns les autres parce que même si vous faites une petite part, mais toute petite part, eh bien, ce que vous faites, c'est formidable. C'est formidable parce que vous contribuez à l'ensemble. Vous contribuez à un tout et c'est pour le Seigneur que vous le faites. Et ça, c'est bien. C'est le principe de la coopération. Filer pour préparer le tissage peut sembler secondaire. Cependant, la force du tissu dépend de la façon dont le travail de filage a été fait en amont. Et c'est pour ça qu'il y a cette expression dans notre texte « disposer à s'appliquer ». Vous avez remarqué ? C'est pas pour rien qu'il y a des mots dans notre Bible. Seulement pour nous donner les grandes lignes de compréhension, mais aussi dans les détails. Ces femmes étaient disposées à s'appliquer. Si je fais quelque chose, eh bien, je veux le faire, mais je veux le faire bien, parce que je sais que le travail que je vais rendre, il va servir à d'autres, et le résultat final sera aussi en partie de la manière dont je me suis consacré, je l'ai fait pour Dieu. Si Dieu veut qu'il bénisse mon travail, il faut que je m'applique. J'ai souvent entendu cette maxime, qu'un travail qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Vous connaissiez ça, hein? Bien sûr. Alors on en fait moins, mais on le fait mieux. Aujourd'hui, on est dans un siècle de compétition. On est dans un siècle de production. On est dans un siècle où on pense être reconnu parce qu'on va en faire plus que les autres. Mais ça, c'est faux, frères et sœurs. Et je m'insurge contre ça. Vous allez dire quel caractère il a. Ah oui. Mais j'arrive à un âge maintenant où, bon, on a passé quand même certaines choses et puis on a appris des choses. Je sais pas tout, hein. Je suis loin de tout savoir. Mais quand même, si on fait les choses, vaut mieux en faire moins, mais les faire avec qualité. On est dans un monde de fous, un monde de fébrilité, un monde de suractivité qui rend les gens malades. Et les résultats sont des résultats qui sont médiocres. Dans bien des domaines, je ne veux pas dire tout, mais quand même. Quoique dans un certain sens, il y a aussi des exigences dans le monde du travail. Vous n'avez pas intérêt de faire les choses à côté, hein. Autrement, vous n'allez pas rester longtemps dans votre place. Il y a ça aussi. En effet, même les meilleurs ouvriers ne seraient pas parvenus à confectionner des rideaux ou des couvertures si ces femmes n'avaient auparavant accompli leur travail correctement. Même quand vous passez la serpillière et vous faites le ménage, eh bien c'est bien que vous le faites. Et vous le faites bien. Parce que c'est pour l'œuvre de Dieu que vous le faites, pour le Seigneur. Dans le service de Dieu, l'Église travaille en équipe. En équipe et aucune fonction n'est insignifiante selon Éphésiens chapitre 4 verset 16, vous retrouverez Dieu a donné les uns pour ceci les autres pour cela, mais il nous est dit que le corps, tout le corps bien coordonné fonctionne à la gloire de Dieu. Il était question de faire un tissu solide qui résiste et qui devait résister au temps pour faire les tentures du sanctuaire. Nous sommes tous utiles. Vous savez que on a un livre qui s'appelle Utile dans la Bible. Il porte le nom d'Utile. Vous connaissez le livre? C'est une épître de Paul. L'épître à Philémon. Onésime, ça veut dire utile. Et pourtant c'était un esclave affranchi. Nous arrivons ainsi à parler des matériaux nécessaires. On va dire quelques mots sur les matériaux nécessaires. Nous allons lire au chapitre 35 quelques versets. Versets 35, 5 à 9. Alors on est venu dire, j'ai dû me tromper de référence, excusez-moi. C'est bien cela, 5 à 9, voilà. Je suis à la bonne... Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur, 35, 5, hein, c'est ça, dont le cœur est bien disposé à porter en offrande de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, en fin lin, en poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de dauphin, curieux, hein, du bois d'agacia, de l'huile pour les chandeliers, des aromates pour l'onction de, pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Que tous ceux d'entre vous qui ont l'habileté viennent exécuter, et la suite, on pourra la lire. Nous allons maintenant, s'il vous plaît, frères et sœurs, rentrer dans le symbolisme des matériaux. Après les ouvriers, après le travail, maintenant c'est les matériaux. Les matériaux, d'abord, sont classés avec les métaux. Il y a de l'or. De l'or qui est l'image du divin, mais de la royauté. L'argent, c'est la rédemption. L'argent, imagine dans la Bible, c'est la rédemption. C'était le rachat de chaque Israélite, l'argent. Il y avait de l'airain. L'airain qui est l'emblème de la force et de la justice de Dieu. Le bois d'Agacia, qui est certainement un des bois, peut-être Steve me le confirmera, des plus difficiles, des plus durs. C'est ce que j'ai trouvé comme explication. Un bois très, très, très compact, qui évoque ce qui est terrestre et ce qui est humain. L'huile et les aromates, qui typifient le Saint-Esprit et les prières. Diverses couleurs, maintenant. Le blanc, qui est l'image de la pureté. Le pourpre, l'image de la royauté ou de l'élévation en dignité. Le cramoisi, qui est l'image de l'expiation. Ça vous rappelle quelque chose. Le bleu, qui est l'image du céleste. Les étoffes et les peaux viennent ensuite, les pierres précieuses, et puis toutes sortes de choses. Et quand nous considérons qui c'est qui a donné tout cela pour la confession, la confection du sanctuaire, qui a donné tout cela? Tous les Israélites. Il n'y en a pas un seul qui n'a pas donné. Il nous a dit tous les Israélites. Ce sont des richesses qui avaient été emportées d'Égypte. Vous savez qu'ils sont pas sortis à vide. Hein, vous en souvenez de cette histoire. Des richesses qui sont sorties donc d'Égypte, qui ont été emportées, et ils ont été donnés d'une manière volontaire. On n'est pas venu leur dire, mais il faut que vous donniez pour qu'on fasse quelque chose. Il faut que vous vous occupiez un peu parce qu'on a besoin d'argent, on a besoin de ceci et cela. Moi, je trouve que c'est un très mauvais principe de demander. Vous allez me dire, je suis vraiment pas comme les autres. Non, parce que c'est Dieu qui doit motiver dans le cœur. Voilà. On a reçu quelque chose ou on n'a pas reçu. Et si on a reçu, il n'y a même pas besoin de demander, ça se fait tout seul. Je ne sais pas si vous partagez mes idées. Parce que moi, je crois que c'est le principe de la conversion. On a tout reçu. On a reçu des trésors. On a été pardonné, on a été sauvé. Dieu nous a donné une vie formidable. Quoi qu'on en dise. Ouais. Moi, je regarde le positif. Et à partir de ce moment-là, puisque j'ai tout reçu, mais j'ai envie de donner, j'ai pas besoin qu'on me dise, il faut que tu donnes, parce que bon, il y a des cas exceptionnels où il faut donner parce qu'il y a un effort à faire, ça c'est sûr. Mais écoutez, j'ai pas besoin qu'on me rappelle toutes les semaines ce qu'il y a à faire. Je le sais, et si je le fais d'abord en priorité parce que j'aime mon Dieu, en considération de tout ce qu'il m'a donné et qu'il me donne encore. Si ce matin je me suis réveillé sans encore sa grâce, parce qu'autrement j'aurais pu mourir dans la nuit. Alors, j'étais pas prêt à mourir, mais enfin bon, quand même, quelque part. Mais toujours est-il, c'est que je reçois ces choses. Et à ce moment-là, mais quand on aime, il y a une publicité qui disait quand on aime, on ne compte pas. Eh ben, c'est vrai, frères et sœurs. Parce qu'on a tellement reçu, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre tout à nouveau. Eh bien, il faut que tu donnes. Je le donne parce que j'aime le Seigneur. Et je sais ce que j'ai à faire. Ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est le cœur qui parle. C'est pas seulement la raison qui me dit ou la pression qui me dit cela. Alors, nous voyons qu'ils ont tous donné. Et comment ils ont donné? C'est important. Comment ont-ils donné, ces hommes d'Israël? Pour qu'une offrande soit agréable à Dieu, il faut qu'elle soit faite premièrement par obéissance. Attendez, c'est pas tout, hein. Obéissance, j'ajouterai quelque chose tout à l'heure. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Prenez ce qui vous appartient. C'est ce que dit Moïse. Tout homme dont le cœur est bien disposé à apporter, alors il apportera dans une obéissance, mais une obéissance qui n'est pas forcée, une obéissance gracieuse, mais une obéissance libre, une obéissance sans contrainte, une obéissance volontaire dont le mobile est l'amour. Ouais. L'amour. Et qu'est-ce que nous rapporte le Nouveau Testament? Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, la tête, mais le cœur d'abord. Sans tristesse ni contrainte. Il faut donner également par consécration réelle au Seigneur. Je prends le texte. Tous les enfants d'Israël dont le cœur était disposé à contribuer à l'œuvre de l'Éternel. Il faut donner dans un esprit de consécration, mais avec joie. Parce que si j'offre ça au Seigneur en disant « Seigneur, c'est le plus beau stylo que j'ai jamais eu, il est formidable. Alors tu me demandes que je te le donne, mais tu sais, ça me fait quelque chose de te le donner. » Ah oui, ça me fait quelque chose. Vous savez que le Seigneur, quand il a donné, quand Dieu a donné son Fils unique, il n'a pas dit « Je vous le donne parce que... hein, il faut que je le donne. » Non, il a donné par amour, hein, Jean 3,16. Eh bien, quand on donne quelque chose, on doit le donner par amour, frères et sœurs, autrement, ce n'est pas la peine de le donner. Avec joie. Et puis, ajoutons la générosité. Je donne, Seigneur, mais c'est compté, hein, c'est au milligramme, hein, au microgramme. Tu n'auras pas plus, Seigneur, la générosité. Dans le chapitre 35, verset 5, il est dit, « On vint dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut. » Oh, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? C'est un secret qui peut être redécouvert aujourd'hui. Pourquoi pas? Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'homme, l'âme bienfaisante sera rassasiée. Frères et sœurs, quelle autre façon, finalement, d'écouter le Seigneur et de répondre à son appel? Quelle autre façon, tout en douceur, et qui procède finalement, eh bien, d'un cœur qui aime. Donner à l'œuvre de Dieu, c'est une bénédiction. Moi, je le crois. Il y a des hommes et des femmes qui ont vu une bénédiction formidable, et tous nous avons vu une bénédiction formidable. Même que lorsque nous avons cru nous appauvrir à un moment ou à un autre, eh bien, nous nous sommes aperçus que quelque temps après, nous avions deux fois plus. Mais dans cet esprit, dans cet état d'esprit. Parce que si je dis « Seigneur, tu me donnes » et puis tu me renvoies l'ascenseur, alors à ce moment-là, je crois que... Non, ça c'est du mercantilisme, c'est du marchandage et ça n'a aucune signification pour Dieu. Le Seigneur n'est pas un mendiant, certainement pas, auquel on verse une obole. Il est le roi de tout et il nous accorde la vie et notre entretien journalier et nous devrions considérer comme un privilège inestimable de pouvoir contribuer à l'avancement et à la victoire de son royaume. Et c'est ce que vous faites, frères et sœurs. J'en profite pour le dire ce matin. Je n'ai pas eu l'occasion de le dire beaucoup. On n'est pas en assemblée générale, elle va bientôt avoir lieu. On le dira. Mais je le dis, et vous le faites, frères et sœurs. Donner est une grâce. Donner est une grâce. Donner plus et donner mieux, c'est augmenter notre propre bénédiction. Donner régulièrement et fidèlement, c'est une discipline. Mettons-nous en garde contre notre propre négligence et nos oublis. Que cela, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, être riche pour Dieu. Vous connaissez l'histoire de, je vous avais raconté, là, la petite veuve avec ses deux petites pites. Hein, enfin, c'était une belle histoire, hein, formidable, extraordinaire ça. Enfin, de conclure, par la bénédiction et par... la surabondance. Écoutez, nous l'avons lu tout à l'heure, on est même venu dire à un moment donné qu'il fallait arrêter de donner. Où on est? Il y en avait trop. Remarquez, je voudrais dire au passage quand même, sans être trop long, mais quand on a quand même entrepris l'année dernière de rectifier un petit peu la comptabilité et les comptes de la... On vous l'avait dit, hein, il y a eu un tel enthousiasme qui glorifie Dieu. C'est qu'on avait demandé une certaine somme, on a eu 4 fois plus. On est obligé de prendre ce qu'on avait besoin, naturellement, pour rembourser à la banque. Eh bien, moi, je dis qu'une église qui donne comme ça, ce serait une église qui va être bénie. Et moi, j'y tiens. Et je le dis. Parce que demander une somme et d'avoir 4 fois plus, c'est formidable, frères et sœurs. Et on ne va pas se glorifier pour ça, mais on va glorifier le Seigneur. Parce que le Seigneur va faire des grandes choses. Quand chacun fait quelque chose ou donne, toujours selon ses moyens, dans un élan de générosité pour Dieu, dans les conditions dont nous avons parlé, c'est-à-dire le principe du cœur et de l'amour. Alors, nous savons que Dieu a visité son Église, c'est un test qui ne trompe pas. Quel enthousiasme pour être dans l'obligation pour Moïse de devoir publier dans le camp que plus personne, finalement, ne s'occupe d'offrande. Et Moïse, à un moment donné, d'obliger d'arrêter le peuple d'apporter des dons, car cela était suffisant et bien au-delà. Puisse le Seigneur nous faire la grâce d'être remplis du Saint-Esprit et de déborder en tout et partout. Je voudrais terminer par une petite histoire, si vous voulez bien. Vous aimez les histoires ? Ah oui, ça c'est quelque chose. Écoutez bien. Il était une fois quatre individus qui s'appelaient Monsieur Tout-le-Monde, Monsieur Quelqu'un, Monsieur Chacun et Monsieur Personne. Vous les connaissez tous, n'est-ce pas ? Il y avait un important travail à faire et on a demandé à Monsieur Tout-le-Monde de le faire. C'est logique. Monsieur Tout-le-Monde était persuadé que quelqu'un le ferait. Alors, Monsieur Chacun pouvait l'avoir fait, mais ce fut Monsieur Personne qui le fit. Monsieur Quelqu'un se fâcha car c'était le travail de Monsieur Tout-le-Monde. Monsieur Tout-le-Monde pensa que Monsieur Chacun pouvait le faire. En fin de compte, Monsieur Tout-le-Monde fit des reproches à Monsieur Chacun, parce que personne n'avait fait ce que quelqu'un aurait pu faire. Et la moralité de notre petite histoire, sans vouloir se fâcher après tout le monde. Il serait bon que chacun fasse ce qu'il doit faire, sans nourrir l'espoir que quelqu'un le fasse à sa place. L'expérience montre que là où on s'attend, où on attend quelqu'un, généralement, on trouve personne. C'est formidable. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Et vous l'aurez là, je vais le photocopier, voilà exactement. Vous pourrez le méditer. C'est extraordinaire et que le Seigneur soit béni. Que Dieu nous donne sa grâce. Nous allons prier quelques instants. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci Seigneur parce que tu veux donner de la dynamique à ton Église. Tu veux donner, Seigneur, un état d'esprit, Seigneur, qui nous amène véritablement à faire les choses. Eh bien, même lorsque nous les avons déjà fait maintenant, jusqu'à maintenant, tu nous renouvelles dans des dispositions d'amour, des dispositions de consécration et des dispositions, Seigneur, pour que Jésus, pour que Dieu soit glorifié. Merci notre Dieu, merci Jésus. Amen.